IDFM Radio, le média valdoisien. IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de l'économie en direct IDFM Radio, diffusé en FM, web radio, DAB+, ou sur notre appli. Une émission que vous pourrez retrouver à tout moment en podcast sur le portail de la radio idfm.fr. Aujourd'hui, 8 mars 2024, journée internationale des droits des femmes, une journée de rassemblement à travers le monde et qui nous interpelle sur le rôle et la place fondamentale des femmes dans notre société, dans la vie publique, économique, culturelle, l'enseignement, le sport, la science, les médias. Un temps fort de communication et d'échange, précisément pour notre média, est l'occasion pour l'économie en direct de consacrer son émission à trois de ces femmes, sensibles, engagées et inspirantes. Bonjour Madame la députée Émilie Chandler.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Députée Renaissance de la première circonscription du Val-d'Oise qui s'étend de La Roche-Guyon à Beaumont-sur-Oise et de Magny-en-Vexin à Pontoise, vous êtes à la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République, chargée de mission sur le traitement des violences intrafamiliales. Vous êtes très investie et fortement mobilisée dans ce domaine, mais pas que. Et c'est ce que nous découvrirons avec vous dans quelques instants, sans oublier de revivre avec vous la journée du 4 mars au Congrès de Versailles pour l'inscription dans la Constitution française du droit à l'IVG. À vos côtés, Fériel Bakoury. Bonjour Fériel.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Directrice de Point Commun, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, pardon. Un poste à multiples. Pardon. Un poste à multiples facettes que vous occupez avec passion depuis 2017 et dont vous nous dévoilerez le parcours et les engagements qui font de Point Commun d'être à la fois une maison ouverte, exigeante et inclusive. Également avec nous ce matin, car vous serez présente au salon Effervescence le 19 mars à Herblay-sur-Seine. Et nous attendons Nadège Cassé, chef d'entreprise chez MBEA, spécialisée dans la sellerie aéronautique et présidente des femmes chefs d'entreprise du Val-d'Oise. Bienvenue déjà à toutes les deux et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio. Avant de vous donner la parole, voici un communiqué de presse. Ce dimanche 10 mars à 15h, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, en partenariat avec la paroisse de Saint-Gratien, organise un ciné-débat autour du film Fortuna, couronné au Festival de Berlin. Un film qui raconte le trajet d'une jeune migrante éthiopienne réfugiée dans un monastère à la frontière suisse et italienne. Ce film sera suivi d'un débat de Karine Gauthier, directrice du pôle Hospitalité JRS Welcome, ONG internationale qui accompagne les personnes contraintes à fuir leur pays, demandeurs d'asile ou réfugiés, en les intégrant dans les familles françaises. Prix des places 4 euros, Centre des Arts à Enghien-les-Bains, ce dimanche 10 mars 15h.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
C'est l'économie, c'est bien l'économie en direct et c'est sur IDFM Radio. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Une journée initiée par l'ONU en 1975 et qui depuis permet chaque année de faire un bilan sur la situation des femmes avec à la clé une thématique différente. L'édition 2024, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Et pour en parler, je reçois Émilie Chandler, députée Renaissance de la première circonscription du Val-d'Oise, et Ferial Bakoury, directrice de Point Commun, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Madame la députée, chère Émilie, élue en juin 2022, vous avez depuis largement réussi à vous faire un nom dans le paysage politique, puisque au-delà de votre mission parlementaire, vous êtes aussi une femme de terrain, et nous y reviendrons. Très mobilisée contre les violences intrafamiliales, il y a tout juste un an, vous participiez à la rédaction d'un rapport sur le sujet. Peut-on en faire un état des lieux, des mesures qui en ont découlé ?
Alors, ce rapport a conduit à l'audition de plusieurs centaines de personnes et à 59 recommandations qui ont été remises à la Première ministre ainsi qu'au garde des Sceaux et à la ministre à l'Égalité. Et ces 59 recommandations ont quasiment toutes été transposées dans la réglementation et la législation. Vous dire que nous avons créé le PAC Nouveau Départ pour aider les femmes à partir de chez elles, que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour mieux former l'ensemble des interlocuteurs. Vous dire aussi que nous avons créé les pôles spécialisés au sein de chaque juridiction, donc devant chaque tribunal et chaque cour d'appel, vous avez une équipe de magistrats civils et pénals qui se parlent, qui échangent pour trouver des solutions ensemble et pour avoir une vision globale de ce qui se passe à l'intérieur des foyers où il y a de la violence. Et une des recommandations qui n'a pas encore été transposée par le législateur jusqu'à cette semaine, c'est une proposition de loi que je porte dans l'hémicycle qui porte sur la création d'une ordonnance de protection d'urgence qui permettra à la victime qui subit des coups et qui n'a pas encore déposé plainte de bénéficier d'une protection du magistrat 24 heures après la saisine.
Merci Madame la députée. Alors une mission pilotée bien sûr par le garde des Sceaux Alain Dupond-Moretti qui lui-même vous a cité dans l'émission Justice en France sur la 2 en septembre 2023. Une belle reconnaissance méritée à notre sens.
C'est toujours agréable d'entendre son nom cité comme à l'appui d'un travail qui a emporté l'agrément de tout le monde. Après, ce qui compte, c'est surtout ce qu'on en fait et comment ça change la vie des gens. Moi, j'ai été élue pour ça, en fait. Alors oui, c'est bien d'être cité, c'est bien d'être connu, mais moi, ce que je veux, c'est que
ça
change.
Fonctionne. Je comprends. Alors. Parmi les mesures aussi, je crois qu'il y a, on insiste sur la formation de la police, de la gendarmerie, des magistrats. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, on s'est rendu compte au cours de toutes ces auditions qu'il y avait un sujet de formation. C'est-à-dire qu'on a auditionné, on a retracé toute la chaîne judiciaire de la victime à partir du moment où elle fait le premier rendez-vous avec son médecin qui va l'aider à l'orienter vers la bonne association, le dépôt de plainte, la prise en charge médicale, psychologique, les magistrats, etc. et le traitement de l'auteur. Comment on fait pour que les professionnels soient mieux formés. Bah en fait, moi je suis allée frapper à la porte des ministères, hein, donc j'ai listé l'ensemble des professionnels qui avaient vocation à intervenir et puis j'ai demandé où ça en était des formations et puis petit à petit on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment police, gendarmerie, maintenant il y a une formation dès la formation initiale, dans le socle de formation il y a de la formation aux violences intrafamiliales et au traitement du psychotraumatisme, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'une victime quand elle vient déposer plainte elle est dans un état un petit peu décalé, elle peut être un peu sèche, un petit peu dans le déni, un petit peu agressive aussi. Mais ça, il faut savoir le détecter, il faut savoir l'accompagner. Et ça s'invente pas. Donc il y a une formation qui s'impose à tous les professionnels, police, gendarmerie, chez les médecins également, dans toutes les professions médicales et paramédicales. Maintenant, il y a un focus violence faite aux femmes et violence intrafamiliale, parce qu'il ne faut pas oublier les enfants. Mmh. Et la même chose pour les magistrats. Ils ont une énorme formation maintenant dès l'École nationale de la magistrature. J'ai tout vérifié,
oui,
les programmes. Et pour en parler, parlé aussi avec des magistrats qui sont sortis de l'école il y a peu de temps. Effectivement, il y a une vraie prise de conscience et tout le monde s'y met. C'est plus possible de se dire qu'à l'intérieur des foyers, il y a de la violence. C'est quand même le lieu où on doit être en sécurité. Il faut être meilleur. Il faut être meilleur dans le traitement de ces situations. Et puis, il y a aussi de l'acculturation à faire et de la pédagogie. Et je pense que les enseignants doivent être mieux formés, mieux accompagnés aussi, parce que c'est finalement dès la petite enfance qu'on peut détecter les situations.
J'avais eu l'occasion de recevoir il y a un peu plus d'un an Fabienne Boulard, qui est très investie aussi dans la formation justement de la police. Elle était consciente qu'il y avait encore un gros travail à faire, mais voilà, elle y travaille pour le dire. Peut-être parler aussi du fichier du portail réservé aux professionnels pour des croisements d'informations.
Alors ce portail, effectivement, il existe et il a pour vocation à finalement venir en appui des pôles spécialisés violence intrafamiliale, et il permet finalement à un professionnel, donc police, gendarmerie, magistrat, d'avoir une vision de l'ensemble de la situation civile et pénale de la personne. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le civil et le pénal ne se parlaient pas suffisamment et qu'il fallait, à un moment donné, quand il fallait agir dans l'urgence, avoir une photographie de la situation,
transversalité
de la situation immédiate pour prendre la meilleure décision possible. Mais au-delà de ça, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont très, très engagés sur ces sujets, parce qu'on parle toujours de violence intrafamiliale, de violence faite aux femmes. Mais moi, je voudrais quand même insister sur un point, c'est qu'on parle aussi dans ce combat d'alliés. On se dit mais elle, ça peut être une alliée dans ce combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est presque une guerre à mener contre ce fléau des violences faites aux femmes. Donc allons-y tout ensemble, et je pense que j'ai une bonne alliée sur ce plateau.
Ah oui, aujourd'hui. Je crois. Ouais, je pense que Feriel pourra s'exprimer tout à l'heure sur le sujet. Vous prenez la multiplication de maisons des femmes. Qui est un vrai relais pour toutes ces femmes qui doivent quitter leur domicile parfois.
À la Maison des Femmes, c'est un concept extraordinaire. C'est Rada Hatem qui a créé la première Maison des Femmes à Saint-Denis. Elle est extraordinaire. Elle nous apprend plein de choses sur la vie et sur les femmes et sur la gestion des problèmes. Voilà, c'est le premier constat, puisque quand vous allez dans une Maison des Femmes, vous êtes censé pouvoir y trouver un accompagnement, des pistes d'orientation, des solutions. Et donc, dans le rapport, effectivement, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait une Maison des Femmes par département. C'est une mesure qui a été annoncée par la Première ministre le 8 mars 2023. Donc évidemment, moi, je suis ça de près. Donc j'attends quelques réponses sur les budgets et comment on fait pour concrétiser ça. Mais je crois que ça avance plutôt bien.
Rada Hatem, que nous avons également reçue plusieurs fois à JDFM Radio. Alors, même si les chiffres restent glaçants, l'année 2023 aura été quand même moins meurtrière. Non, je vous vois opiner du chef.
Tant qu'il y aura au moins un féminicide sur une année, c'est qu'on n'aura pas réussi le pari de la lutte contre les violences intrafamiliales. Voilà, c'est protéger le foyer, protéger les enfants, protéger les femmes et les hommes qui subissent des violences, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais on voit aussi qu'il y a certains hommes qui subissent des coups. Donc tant que j'aurai pas un chiffre nul, moi je continuerai le combat.
Je comprends. Alors, il y a l'extension des téléphones grave danger. On a pu noter en février qu'une femme a justement été sauvée en actionnant le dispositif. Les bracelets anti-rapprochement, des dispositifs qui font leur preuve.
Alors, ce sont des dispositifs qui fonctionnent bien. Le Val d'Oise a été terre d'expérimentation quand ça a été créé. Ça fonctionne bien, ça fonctionne de mieux en mieux parce qu'on a adapté aussi la technologie au mode de vie des personnes qui en bénéficiaient, parce qu'il y avait des petits sujets techniques à régler. Ça fonctionne bien, il y en a de plus en plus et c'est tant mieux. Ce sont des dispositifs qui se mettent en place avec l'accord de la victime. Donc il y a un vrai engagement dès le départ et on voit effectivement que ça évite certains drames.
Merci, Madame la députée Émilie Chandler. Je vous propose, avant de continuer sur d'autres sujets avec vous, de faire une pause. À tout de suite.
J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas. Sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes. Je sors de l'ombre, je sais ce que je fais. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. De sens en contresens, on se perd toujours. Quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant. De la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime.
Même dans le ciel qui se voile, il y a toujours une étoile. Chemin de nos rêves, et quand on y croit, un nouveau jour se lève.
J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime.
C'est l'économie en direct et ce matin 8 mars, journée internationale des droits des femmes, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Chandler, députée Renaissance de la première circonscription du Val-d'Oise, et Feriel Bakoury, directrice de Point Commun, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Feriel Bakoury, je crois que vous vouliez intervenir sur ces violences.
Oui,
qui pour vous ne, ouais, ne sont
trouve,
pas...
Je trouve passionnant ce que dit Émilie et je suis contente de m'informer au plus près, mais je trouve que ça fait écho à d'autres violences faites aux femmes qui sont pas forcément dans le milieu intrafamilial, qui sont les révélations dans le milieu du cinéma, nous ont un peu tous fait tomber par terre et qui d'ailleurs, dans le domaine artistique, révèle, la ministre l'a dit, en fait, comment dire, une violence systémique. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur des hommes qui auraient des problèmes et qui taperaient des femmes, en fait. Mm-hmm. On voit bien qu'un milieu comme le cinéma, que moi j'adore, hein, je suis directrice de théâtre, mais j'adore le cinéma, a fonctionné, en fait, avec un système qui était quand même terrible. Je veux dire, femmes et enfants, excusez-moi. Ce qu'a révélé Judith Godrèche, oui, que la ministre a soutenu.
Oui, c'est une enfant. Hein.
Enfin, voilà. Et ça casse quelque chose d'important dans le milieu de l'art et de la culture. C'est la fameuse séparation, excusez-moi, entre l'œuvre et l'homme. Avec Benoît Jacquot, c'est quand même compliqué de faire la différence entre l'œuvre et l'homme, vous voyez. Donc, c'est ça que ça me fait dire à l'endroit de mon secteur et que je suis contente qu'il y ait des députés et des ministres qui avancent sur ce sujet, qui sévit un peu partout dans le monde, mais aussi dans les pays occidentaux où on a parfois on renvoie la pierre à des pays qui seraient moins développés, mais on
sous-développés,
sur nous-mêmes,
mais en réalité, on se rend compte que voilà, on est logé à la même enseigne.
Voilà. Ouais,
absolument, voilà. Absolument. Bah, écoutez, merci de ce témoignage. Alors, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes, une journée qui n'interdit pas toute l'année les inégalités. Est-ce que, je m'adresse à toutes les deux, une journée est suffisante? Émilie Chandler.
Vous imaginez ma réponse. C'est tous les jours. C'est tous les jours que l'égalité doit exister entre les hommes et les femmes. On n'y est pas encore tout à fait. Il y a encore un peu de boulot. Mais effectivement, c'est tous les jours.
Carielle, Bakouri.
Alors, moi, quand j'ai dit que je faisais cette émission à mes collègues, ils m'ont dit ce qu'il faudrait justement dire, c'est que ce ne soit pas seulement un jour. Parce que j'ai plein de jeunes collègues.
Bien
sûr.
On est bien
d'accord. Très, très militantes et féministes. Et je dirais que, au-delà de la question de la violence, qui est pour moi quelque chose de qui relève de comment on éduque certains hommes, enfin les hommes, enfin ça relève aussi de l'éducation. Vous parliez de la formation, Émilie, mais la question de l'éducation, qu'est-ce qui porte à ça en fait? Qu'est-ce qui amène à ça? Je trouve qu'il y a la question de la place des femmes globalement dans la société que ça rejoint. Qu'est-ce qui fait qu'une femme se sent légitime pour devenir députée, pour devenir directrice d'une scène nationale, pour devenir chef d'une entreprise? Moi, je lisais il y a quelques années des chiffres qui disaient que, par exemple, un homme postule quand il a 50% des compétences, une femme postule quand elle a 90% des compétences. Je trouve ça intéressant sur la confiance qu'on a de nous-mêmes, pour arriver à avoir des postes à responsabilité. On sait que le champ de la politique est quand même un champ qui est resté très longtemps très masculin, hein, je veux dire. Idem pour le milieu dans lequel je suis. Voilà. Donc là aussi, il y a eu des progrès, sur lesquels il faut tout le temps combattre. On voit bien justement que sur l'IVG, certains repartiraient bien en arrière. On voit bien que, voilà. Donc quelles sont les conditions, finalement, d'une égalité réelle?
On parle du syndrome de l'imposteur qui est une réalité dans certains désirs de tenir des postes et de se dire j'ai pas les capacités pour le faire. Ça existe vraiment.
Mais des femmes qui ont eu des postes très importants le disent aujourd'hui. Des femmes d'une autre génération que celle d'Émilie et la mienne le disent.
Mais je pense
même avec des responsabilités importantes, elles ne se sentaient pas légitimes.
Absolument.
Je pense que ça progresse un peu quand même, je crois.
On espère en tout cas.
Un petit peu de chemin.
Alors, Émilie Chandler, pour moi, vous avez compris, c'est un vrai bonheur de vous avoir ce matin dans l'émission. Et puis, alors, impossible de ne pas évoquer avec vous l'inscription de l'IVG dans la Constitution. À Versailles, lundi 4 mars, vous étiez présente lorsque, réunis en congrès, députés et sénateurs ont voté à une majorité écrasante l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, voulue par le gouvernement. Et moi, j'ai pu noter, puisque je vous suis sur les réseaux sociaux, que pour vous, c'était bon, c'est vraiment un moment historique, mais que vous avez vécu comme tel et presque ébahi d'en être actrice.
Alors, rien que de vous entendre, j'en ai encore un petit peu des larmes dans les yeux. C'était un moment extraordinaire. Alors, moi, je suis bonne élève, donc je suis arrivée une heure avant tout le monde. J'étais une des premières. Je voulais regarder les symboles, regarder les lieux pour bien m'imprégner, parce que c'est quand même un moment extraordinaire qu'on allait vivre. Inscrire un droit des femmes dans la Constitution, c'est absolument incroyable. Avec en plus la petite spécificité, c'est que moi, j'ai beaucoup enseigné l'histoire du droit à l'université. Donc, j'ai enseigné à mes étudiants ce qu'était un congrès, et donc d'être là comme ça, acteur de l'histoire, c'était incroyable. On a eu la chance de vivre un moment d'unité. Le vote n'a pas été à l'unanimité, mais une majorité écrasante, puisque 780 voix pour. C'était un moment d'unité. On était tous extrêmement émus à la fois de participer à ce moment historique, mais aussi à se dire que notre voix a compté pour améliorer la situation du droit des femmes, pouvoir inscrire dans le marbre de la loi ce droit, qui est un droit fondamental. Les discours étaient évidemment poignants de vérité, avec ces retours sur des situations personnelles de femmes qui ont dû avorter clandestinement et puis ensuite être sanctionnées pénalement. C'est dramatique. Et puis se dire qu'on est le premier pays à inscrire ce droit dans la Constitution, ça donne aussi beaucoup d'espoir. Et la semaine prochaine, voilà, je vous l'indique en exclusivité, je vais participer à une délégation de parlementaires français pour aller porter la voix de la France à la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies, qui est un organe intergouvernemental mondial dédié à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Et donc là, on va pouvoir expliquer au monde entier que nous, avec nos idées de femmes, parce qu'au départ, c'est des idées des petites femmes, on a réussi. Voilà, on a réussi à dépasser les clivages partisans. Et c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. D'ailleurs, les applaudissements, moi, je les filmais parce que j'ai voulu partager ce moment avec vous sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait des petites capsules. À un moment, on a des minutes entières d'applaudissements, tellement on est fiers d'avoir réussi ce combat. Et puis, ça ouvre la porte aussi à plein d'autres.
Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison de dire que c'était un verdict annoncé sous les applaudissements nourris de l'hémicycle et puis sous l'œil attentif surtout de nombreux journalistes internationaux placés en tribune. Feriel Bakhouri, vous voulez ajouter quelque chose à...
Oui, je voulais dire que, en fait, dans cette histoire de l'IVG, qui est une histoire importante, moi, il se trouve que j'ai une artiste en résidence, qui s'appelle aussi Émilie. C'est drôle. Émilie Rousset, qui a fait un projet il y a quelques années.
C'est drôle. Émilie Joly, je
voilà,
pense.
Voilà, exactement. qui a fait un spectacle sur le procès de Bobigny. Vous voyez, Gisèle Halimi, etc. Et ce qui relève, en fait, ce qui est très important sur la question de l'égalité des femmes, l'émancipation des femmes, c'est deux points, tous les sociologues le disent, c'est la question des tâches ménagères, la répartition des tâches ménagères, et le droit à l'IVG. Alors, on sait très bien que l'IVG, ça choque notamment les communautés un peu religieuses, mais la question du droit à l'IVG, c'est que tout le monde n'est pas obligé de faire un avortement, mais que ceux qui considèrent qu'ils doivent le faire, ce qui n'est jamais une chose facile, puissent le faire. Je pense qu'aucune femme n'a envie de faire un avortement, mais c'est parfois nécessaire. Voilà. Et donc, du coup, c'est important de savoir que c'est un critère lien avec le premier point important, c'est-à-dire que, et que c'est un endroit d'ailleurs utilisé dans les pays très répressif pour contrôler les femmes. Le contrôle des grossesses, c'est un endroit pour, vous voyez, si vous avez, voilà, moi je suis franco-algérienne, mon père avait 17 frères et sœurs, je veux dire, quand on peut pas contrôler, j'avais un père pédiatre qui a amené, en fait, la contraception dans sa famille, c'était un moyen, en fait, de pouvoir faire que les femmes fassent des études, qu'elles fassent autre chose, etc. Donc c'est très important. Et ceux qui sont contre ne sont pas obligés de pratiquer l'IVG, c'est ça qui est important. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même aussi des fois des situations de viol où vraiment, franchement,
oui, là, c'est,
je sais pas,
c'est incontournable.
Voilà.
Ça n'engage que moi, mais je ne sais pas si cette inscription était dans les tuyaux depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé aux États-Unis, là, il y a 2 ans, a donné un coup d'accélérateur à cette volonté d'inscrire l'IVG dans la Constitution.
Alors, au départ, quand on en parle, l'année dernière, avec Aurore Berger, qui était présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, moi, je me suis mise un peu en colère parce qu'on nous a dit, mais ça, c'est un coup de com', justement, parce qu'elle en a parlé suite à ce qui s'était passé aux États-Unis.
Oui, oui.
Et je crois que si on nous avait pas opposé ça, on se serait peut-être pas autant battu.
D'accord.
Parce qu'à un suffit. À un moment, ça suffit.
Ça vous a donné du carburant.
C'est exactement. Et puis on était plusieurs groupes politiques à avoir cette idée. Donc le travail extraordinaire autour de cette victoire, c'est vraiment de se dire qu'on a réussi à travailler ensemble. C'est rare à l'Assemblée d'avoir. Alors on a des textes transpartisans, mais sur un texte comme celui-là, une inscription dans la Constitution. On a réussi à trouver un texte avec les deux assemblées, que ce soit Sénat ou Parlement, autour du droit des femmes. On est quand même là dans le cœur du réacteur de la société française, la liberté de disposer de son corps. Et comme vient de nous le dire Feriel, c'est jamais... C'est jamais facile de recourir à une intervention volontaire de grossesse. C'est quelque chose qui vous marque, c'est quelque chose que vous avez en vous. Et quand on entend des témoignages de comédiennes, tu as dû l'entendre, qui disaient à une époque, donc au moment de la loi Simone Veil, moi j'aurais voulu faire une interruption volontaire de grossesse, mais j'avais pas les moyens. Ça a été ça, ça a été un parcours du combattant. Donc ça a été parler de contraception, parler d'IVG, parler du coût, parler de la prise en charge, parler de la durée pour 50 ans plus tard se dire ça y est, on inscrit ce droit dans la Constitution pour toutes les femmes et il n'y aura plus de différence. Et c'est ça la liberté.
Émilie Chandler, donc vous l'avez très justement souligné, il aura fallu un an et demi hein, presque pour que le projet aboutisse. Moi, je trouve assez incroyable ce timing du calendrier qui permet de faire coïncider cette inscription avec la Journée internationale des droits des femmes, puisqu'il y aura une cérémonie de scellement tout à l'heure hein, avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est parce que souvent, quand une loi doit être votée, on entend il y a des reports, et là, les étoiles se sont alignées, c'est ça ?
Il y a eu un alignement des planètes, c'est certain, puisque la semaine dernière, avant que le Sénat ne vote, on savait toujours pas si ça allait pouvoir arriver cette semaine, si on allait avoir un atterrissage, comme on dit, avec un congrès à Versailles. Donc. Si le Sénat n'avait pas voté favorablement, ça aurait été reporté. Ça aurait pu être dans quelques mois. Là, on a un alignement extraordinaire qui va nous permettre à nous, représentantes du Parlement, d'aller à New York pour parler à toutes les femmes des pays de ce qu'on a réussi à faire en France. Je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu ébahie, mais c'est parce que c'est tellement incroyable de dire qu'on a réussi. 18 mois, c'est rien. En fait, pour réussir un résultat pareil. Donc voilà, il faut être fier. Et puis, ça fait du bien aussi aux Françaises de se dire que la politique, c'est pas que les réseaux sociaux, que les élections, que les campagnes à deux balles. C'est pas que ça. C'est aussi faire des belles choses et pouvoir modifier les droits.
Et puis, c'est un bel hommage à Simone Veil, bien évidemment. Juste encore un mot sur cette inscription. Je voulais dire que le chef de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a salué cette inscription dans la Constitution française du droit à l'avortement. Il dit « Nous saluons la décision de la France de garantir les droits des femmes et de leur sauver la vie », a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus, ajoutant que l'avortement sans risque fait partie des soins de santé. Voilà, donc je pense que vous avez aussi un allié de poids.
Oui, on a évidemment un allié de poids et je crois aussi que on est tous un peu nos alliés puisqu'on a tous autour de nous, de près ou d'un peu moins près, quelqu'un qui a dû recourir à l'IVG en secret. Dans nos familles, on a forcément une tante qui s'est fait accompagner par quelqu'un d'autre de la famille, des gens qui donnent l'impression de plus forcément s'entendre aujourd'hui, alors qu'il y a 25 ou 30 ans, c'est eux qui sont allés tous les deux subir un acte en étant accompagnés parce que c'est une décision difficile qu'on cache, qui est difficile à assumer encore aujourd'hui. On le fait en silence, c'est secret, le fait en souffrance, ça marque des vies et je crois qu'en fait on a tout ça en nous et on a des alliés politiques, oui, mais on a aussi les régents autour de nous qui nous portent.
Merci infiniment Émilie Chandler pour tout ce témoignage. On va parler de votre action en tant que femme de terrain, mais avant je vous propose d'écouter un peu de musique. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. C'est l'économie en direct. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et j'ai le bonheur d'être avec Émilie Chandler, députée Renaissance de la première circonscription du Val d'Oise, et Fériel Bakoury, directrice de Point Commun, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Émilie, encore quelques mots sur votre mission de... Je dis que vous êtes une femme de terrain et je vous vois tous les jours agir dans ce sens. Qu'est-ce qui vous pousse à agir de cette façon, Émilie ?
Moi, effectivement, je fais du terrain. Quand vous dites faire du terrain, c'est parce que je suis sur mon territoire, ça doit être ça. Et
oui,
puis en même
ça.
Temps, à l'Assemblée, qu'est-ce qui me pousse
Surtout sur le territoire.
La bienveillance des gens, d'une part. Tout ce qu'on peut améliorer, d'autre part. Vous savez, moi, je suis avocat. Hein, donc défendre, c'est mon métier. C'est quelque chose que si j'ai plus rien à défendre, je ne saurais plus quoi faire. Donc trouver des solutions, trouver des compromis et puis mener des combats quand il y a besoin. Parce que moi, j'aime bien la bagarre quand faut y aller sur les idées politiques, sociales ou sociétales. Donc d'un petit projet, je m'en saisis et puis on fait des choses. Mais il y a un point, c'est que je le fais jamais seule. Pourquoi ça marche? Parce que on y va ensemble, en fait, et j'emmène les gens avec moi parce qu'il y a un lien de confiance qui existe. Donc, oui, on fait plein de choses sur le territoire. Et puis, bon, j'ai mon portable qui est tout le temps allumé, donc ça aide aussi la réactivité. Moi, je suis élue.
Vous êtes accessible.
Je suis élue du territoire. Hein. Ce que je fais aujourd'hui, je le dois à mes électeurs. Donc, je leur dois
c'est
aussi
une façon
d'être
de leur
là
rendre.
Pour eux.
Oui, ouais, très bien. Alors, parmi tous les sujets sur lesquels vous êtes sollicitée, il y a celui des femmes en ruralité. Vous prenez un accès à la culture. Donc, on est très content d'avoir Fériel Bakoury avec nous. Aux soins ou à l'inclusion économique.
Oui, alors ça, c'est évidemment mes combats. Hein. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est l'égalité aussi d'accès aux soins, à la culture, à l'éducation, à l'indépendance économique, que ce soit pour les femmes qui habitent en ville, mais celles qui habitent aussi en ruralité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne s'autorise pas tellement, quand on habite à la campagne, à 50 km de Paris, à aller à un spectacle un samedi soir à Paris quand on a 18 ans. Voilà, pour plein de raisons. Mmh. Parce que y a les transports, parce que ça coûte cher, parce qu'on se met un frein, en fait.
Oui,
on s'interdit. Et heureusement, on a la chance dans le Val d'Oise d'avoir des gens particulièrement engagés. J'ai Fériel à mes côtés, que je connais depuis un moment maintenant. C'est la culture qui vient en ruralité. Et ça, c'est génial parce que c'est pas une culture de seconde zone. Mmh. C'est de la vraie belle culture, si je peux me permettre, rendre accessible la culture à tous les niveaux. Et moi, c'est un combat que je défends depuis longtemps, avant même que je sois
élue. C'est ça, oui.
On n'a pas le droit de s'ennuyer parce qu'on habite en ruralité.
Bien sûr.
Et Netflix, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mmh, il faut de la culture avec des vrais gens. Je crois que là-dessus, Fériel a beaucoup à nous dire aussi.
Je pense qu'elle va nous en parler tout à l'heure, Fériel. Alors moi, je voudrais rappeler, vous l'avez dit toutes les deux, avant qu'on parle de ce problème de ruralité, que le code de l'éducation doit rappeler que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, se fait dès l'école primaire. Hein, on est bien d'accord là-dessus.
Oui, je pourrais même dire des plus petits, hein, parce qu'il y a l'école maternelle et puis il y a la crèche. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dès que vous laissez votre enfant en garde. C'est vrai que maintenant, les professionnels sont tous en alerte hein, sur le sujet de l'égalité. Et c'est chouette de voir ça avec notre regard d'adulte, de voir que nos enfants, moi, comme vous le savez, j'ai un petit garçon de 2 ans et je vois comme il évolue avec les garçons et les filles. Il n'y a pas de différence. Et c'est comme ça qu'il est, qu'il grandit. Et moi, je trouve ça génial. Et il aide à faire le ménage.
Ah, voilà. Formidable.
Il va falloir attendre longtemps pour que tu sois sûre. Pour avoir un garçon de 21 ans. Il a 2 ans, c'est ça?
Il a 2 ans. Ouais. Ça changera forcément.
Non, mais quand même, je suis d'accord avec Émilie pour dire qu'il faut commencer très jeune.
Oui. Je suis d'accord, mais il faut suivre beaucoup. Je trouve qu'il y a des phases, en fait, dans l'éducation d'un enfant. Mais évidemment,
clair.
Il faut commencer et qu'on est attentif. Mais
c'était pour faire un petit hommage au personnel de la petite enfance qui n'est jamais valorisé, alors qu'ils ont une place de choix aussi dans tout ce qui est fait.
Merci beaucoup, Émilie Chandler, députée de la première circonscription du Val-d'Oise. Merci pour toute cette énergie. On a envie de vous dire, ne changez rien. Et puis, je vous invite à découvrir, enfin, vous connaissez Feriel, mais voilà, on va écouter le témoignage de Feriel.
Écoutez IDFM Radio, où que vous soyez, via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Merci d'écouter IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et pour cette journée du 8 mars, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Chandler, députée Renaissance de la première circonscription du Val-d'Oise, qui s'étend de La Roche-Guyon à Beaumont-sur-Oise et de Pontoise à Magny-en-Vexin. Et Feriel Bakoury, directrice de Point Commun, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Alors, Feriel Bakoury, donc directrice de cette scène nationale, quelques mots peut-être sur votre parcours. Comment devient-on directrice d'un tel établissement?
Alors, je dirais la première chose qui me vient, avec beaucoup de passion,
en fait. Oui.
Moi, je pense que
c'est ce que j'ai dit en préambule. Ouais, là, j'ai compris que vous étiez passionnée.
J'avais vraiment, en fait, un rêve. Il se trouve que je pense que le choc culturel, je l'ai eu moi, en fait. J'ai été élevée par deux parents qui sont sortis de leur milieu social par la rencontre avec la culture. J'ai deux sœurs.
Parlez bien en face du micro.
J'ai deux sœurs, on est toutes les trois dans la culture.
Hein. C'est oui. Quand même quelque chose. Oui, c'est incroyable. Ouais.
J'ai une sœur directrice d'école d'art. J'ai une sœur qui est antiquaire, qui est prof à l'école Boulle. Et moi, je suis directrice spectacle vivant. C'est pas le même domaine, mais voilà. Donc, ça a émancipé nos parents. Et donc, du coup... moi, en tout cas, mon grand sujet, c'était comment faire partager ça, en fait. Mmh. Parce qu'on sait très bien que le rapport à la culture, alors je vais tout de suite taper dans ce qui se dit de nous, bah, on est souvent plus avantagé quand on vient dans un milieu social où les parents sont aussi, entre guillemets, des cultureux. Absolument. Donc la question, c'est comment, en fait, on fait pour que les autres aient la possibilité de faire cette rencontre qui n'est pas obligatoire, je le dis bien. Hein.
Enfin, qui n'est pas évidente.
Moi, des gens qui me disent « je vais très bien sans théâtre », je leur en veux pas du tout. Mmh. Mais comment on fait pour que ce rapport au spectacle vivant, parce qu'il s'agit de théâtre, danse, etc., puisse se faire, puisque, comme Émilie le disait, moi, je regarde plein de séries. Hein. Je regarde Netflix, MyCanal, j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, dans le spectacle vivant, il y a le mot « vivant », donc il y a une rencontre humaine et relationnelle. Et moi, l'objet artistique m'intéresse comme choc, comme le disait Malraux, mais aussi... en fait, la relation qui s'installe entre les habitants du Val-d'Oise et, en fait, l'équipe de la scène nationale et les artistes. Et ça, ces aventures-là, c'est quand même un aspect important du projet. Donc, comment on devient directrice? En ayant eu envie tout au long de mon parcours, et je l'ai toujours, de réunir au mieux, en fait, j'ai travaillé à Bobigny, à Montreuil, tout le monde le sait, à Cergy-Pontoise, des populations qui n'étaient pas acquises à la cause, puisqu'en tout cas, dans le Val-d'Oise, autour du théâtre, bah, y a des gens qui viennent et puis il y a des gens qui ne venaient pas du tout. Mmh. Et donc du coup, c'est cette passion-là qui a fait que je suis devenue directrice. Et à un moment, ça fait le lien avec ce que disait Émilie, il se trouve que j'ai eu la chance que ma passion croise ce qu'on a commencé à regarder en politique, c'est pourquoi y a-t-il aucune femme directrice? Il y en a encore très peu, on est encore que 30%. Alors genre, 30%, tout le monde nous dit c'est merveilleux parce qu'avant on était 15.
C'est, oui, c'est ça. Par rapport à zéro, c'est
oui,
une belle progression.
Et ça arrive que je croise des hommes qui me disent mais tu sais très bien que voilà c'est plus facile pour vous maintenant. Et je leur réponds gentiment à mes collègues hommes parce que je suis un peu comme Émilie, je pense que j'ai envie que les hommes et les femmes se rassemblent. Je leur réponds mais rassurez-vous, il y a encore 70% de chance que vous puissiez être directeur. Voilà, donc passion, et à un moment donné où on s'est dit, les femmes peuvent être directrices, et je me le suis dit moi aussi, en fait.
C'est ça. Donc un poste que vous revendiquez et dans lequel vous vous épanouissez totalement.
Alors, je ne sais pas si je le revendique, je ne crois pas que je le revendique. J'ai envie de dire, une scène nationale, c'est un service public, et moi, je suis une femme de service public. En ce moment, il est un peu fragilisé, je trouve, ce service public. Mais à l'intérieur de ça, je pense qu'une scène nationale, un théâtre national, c'est comme l'école. Que la culture n'est pas un supplément d'âme. Que nous avons une chance en France extraordinaire. C'est que de Malraux à François Mitterrand, il y a eu des hommes de gauche comme de droite pour dire « mais vraiment, en fait, la culture... si vous voulez, ça fait partie de notre patrimoine. Ce que je dis tout le temps, quand j'entends des gens qui me disent la culture, c'est élitiste, c'est pas pour tous. Alors, je pense que nous, les acteurs culturels, on a un boulot pour vraiment ouvrir. et que moi, je fais partie de celles, et on est nombreux à être très militantes sur le sujet, mais que par ailleurs, donc à partager ce patrimoine, mais par ailleurs, je peux vous donner des milliers d'exemples dans mon parcours, et encore aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, d'habitants, de gens pour qui la rencontre avec les œuvres, Émilie a vu Grand Ensemble, un projet ultra important qui s'est passé au quartier Louvret, a créé des expériences humaines inédites. Ils sont pas forcément devenus toujours des spectateurs de la scène nationale, mais ils n'ont plus regardé, en fait, la scène nationale de la même façon.
De la même façon.
Parce qu'on on crée, en fait, une relation, une aventure avec eux qui a marqué leur vie. Ils le disent, en fait, dans les entretiens. Donc, moi, je veux, en tout cas, qu'on puisse rendre ça possible. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Et je dis toujours, je suis ni la justice, ni l'école. Je n'évalue personne. Donc, pour moi, je le vois comme, création de sens, émancipation, plaisir, bonheur, divertissement. Ce n'est pas incompatible. Et donc du coup, moi, mon job depuis que je suis jeune, j'étais directrice des relations publiques et je suis directrice de la scène nationale, c'est le même. Je suis quand même toujours directrice de la relation avec les habitants. En fait, oui. C'est ça qui m'intéresse. Voilà.
Très bien. Alors, vous vouliez revenir sur les deux facettes de vos champs d'intervention, c'est-à-dire la dimension artistique, mais aussi le fait que vous l'avez dit, c'est le service public et vous dirigez une entreprise de service public.
Oui. Alors, la deuxième facette moins connue, et je m'en rends compte puisque maintenant, en fait, on a développé depuis 3 ans, en fait, un club de mécénat. Parce que même si on est service public, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'aller chercher des recettes parce que il y a moins d'argent. Donc ça, c'est une
réalité.
Il y a moins d'argent. Donc en fait, nous aussi, on doit faire des efforts. Et c'est vrai que personne ne se rend compte quand je suis en conseil d'administration, avec un conseil d'administration qui soutient fort la scène nationale, nos partenaires publics, que sont l'agglomération, l'État et le département. En fait, c'est beaucoup ressorti pendant la période de la pandémie quand on était fermé. La scène nationale fait travailler 500 personnes par an. Donc en fait, on est un acteur économique important. D'accord. Donc quand elle ne travaille pas, c'est ce qu'avaient relevé les élus, y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et c'est quand même une grande majorité de Valdoisiens, avec des corps de métier extrêmement différents. Donc en effet, on est un acteur économique important. Et donc en tant que directrice, je ne sais pas comment dire, 70% de mon temps, c'est des ressources humaines, il faut aller chercher de l'argent pour faire marcher la scène nationale, qui, elle, perd de l'argent avec l'inflation comme beaucoup d'entreprises. Et du coup, je suis vraiment dans une logique entrepreneuriale. Et quand je rencontre mes mécènes, je peux vous dire qu'on partage énormément de sujets de chefs d'entreprise. Ça, c'est un sujet. Et pourtant, je suis un secteur service public, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Avec aujourd'hui des enjeux particuliers qui sont qu'en effet, les artistes qui sont au cœur de la machine, en fait, ont plus de mal à exister. Donc, il y a eu la question du Covid qui fait qu'il y a eu une mise en arrêt, ils ont moins tourné, etc. Et qu'en effet, il y a l'inflation et qu'en fait, tout le monde a moins d'argent. Et que du coup, aujourd'hui, se joue quand même une partie d'inquiétude de leur survie ou alors de notre sous-activité dans le temps si on ne trouve pas d'autres solutions financières. Ou si nos subventionnaires n'arrivent pas à minima à maintenir. Alors moi, je suis maintenue et soutenue, soyons clairs. Tout va bien, mais on voit, par exemple, que c'est quand même compliqué au niveau du gouvernement. Ce qu'on comprend bien, mais ce qui crée plein de débats, comme d'autres secteurs, mais aussi dans celui-là qui a la particularité peut-être d'être vu parfois comme un supplément d'âme. C'est-à-dire, je pense que c'est quand même une chose que nous, on entend souvent. Après, on espère que notre nouvelle ministre va réussir à se bagarrer. Émilie m'a donné un signe positif de ce sujet-là. Et donc, c'est très important.
En tout cas, elle a le tempérament.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà sur les deux versus.
Oui. Merci Fériel. Je vous propose qu'on marque une pause et puis on continue cet entretien passionnant.
C'est quoi un homme quand il se terre, quand il se cache pour pleurer? Quand il a peur, quand il a mal à en crever. C'est quoi un homme quand il est lui qu'il ne ment pas? C'est quoi un homme?
C'est fort une femme quand on nous blesse et nous accable, on ne se plaint pas. Quand on nous laisse, que tout le monde part, on reste là. Avec les restes, on reconstruit, on est comme ça. C'est ça une femme.
C'est quoi un homme?
C'est quoi une femme?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
si t'es un homme,
si t'es une femme. C'est quoi une femme? Quand on l'empêche, quand on aimerait qu'elle ne dise rien, quand on la laisse, quand on l'enferme dans un coin. C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains? C'est quoi une femme?
C'est bonhomme qui n'a plus peur quand il faut protéger les siens. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est bonhomme qui ne trompe pas, qui se contient. C'est bonhomme.
C'est quoi un homme?
C'est quoi une femme?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
Si t'es un homme,
si t'es une femme. On nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là et de sourire devant les gens quand rien ne va. On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas. On se demande si on pardonne la différence et toutes les remises en question. Si l'on oublie les idéaux, les illusions. Si on pardonne les faux pas, les déceptions. C'est quoi un homme?
C'est quoi une femme?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
Si t'es un homme,
si t'es une femme. C'est quoi un homme? Quand il se terre, quand il se cache pour pleurer. Quand il a peur, quand il a mal à en crever.
Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien.
C'est quoi un homme?
C'est l'économie en direct et aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits des femmes, je reçois sur ce plateau Émilie Chandler et Ferial Bakouri. Ferial Bakouri, vous nous avez expliqué votre métier que vous faites avec passion. En ce jour de cette journée internationale des droits des femmes, parlons justement de ces femmes artistes que vous soutenez dans leur parcours. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, je dirais que le parcours des femmes artistes, c'est comme le parcours de toutes les femmes de la société. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire il y a 25 ans, les femmes qui étaient metteurs en scène étaient toujours la femme d'un metteur en scène. Je vous dis ça, ça me fait rire de le dire, en fait. C'est la même chose que pour les directrices de théâtre. J'ai des collègues hommes que j'adore qui me disent encore, moi ça me fait rire, ils me disent mais en fait des femmes comme toi dans ma génération il n'y en avait pas. Bah écoute, ok, moi j'en connais. Et donc sur les femmes artistes, elles avaient, c'est un peu comme au cinéma, d'abord elles n'existaient pas. Puis un jour, le ministère, comme quoi il y a quand même des choses qui sont très utiles, a décidé d'imposer des quotas aux directeurs. Moi, je vais être super sincère là-dessus. Au début, je pensais que c'était peut-être impossible de faire une programmation 50% de femmes, 50% oui. d'hommes. Et maintenant, je me demande comment j'ai pu penser ça. Mais c'est pour ça, c'est pour se donner de l'espoir. On peut progresser.
Votre logiciel n'était voilà, pas.
Non, mais c'est important parce que moi, j'étais configurée pour penser ça, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est très, très fort, en fait. Elles ne sont pas capables. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de directrice, il n'y a pas de femme politique. Bon. Et donc, du coup, on a un nouveau directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, qui est un homme formidable. Cet été, Festival d'Avignon, il a fait une programmation 50% de femmes, 50% d'hommes. Et cette programmation était super, d'accord? Donc, tout va bien. Donc, la question, c'est... Ensuite, une fois qu'elles ont existé, elles prenaient pas les grands plateaux. Elles s'autorisaient pas. Moi, j'ai trouvé ça. Là,
on parlait du syndrome de l'imposteur.
Elles prenaient pas la grande salle. Elles avaient toujours moins de budget. Elles étaient toujours moins soutenues. Vous voyez, donc on était dans un circuit où voilà, elle faisait que des petites formes. Donc en fait, notre boulot, c'est d'accompagner et de dire à une metteur en scène en lui disant mais là en fait, ça fait 50 fois que tu as un projet super en petite salle, tu veux pas passer au grand plateau? Ben ça c'est tout un sujet. Donc en fait, l'accompagnement des artistes en général est une chose compliquée aujourd'hui pour des questions financières puisque nous avons moins de sous et que l'État a moins de sous, on va se le dire. Mais du côté des femmes, forcément en fait. Ça s'empire plus de ce côté-là aussi, puisque de toute façon, elles se battent parfois moins parce qu'elles se sentent moins légitimes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je crois qu'au cinéma, c'est un peu pareil. Hein. Enfin, je veux dire, c'est les grands tournages, les grands budgets. Enfin, c'est toujours. Une fois qu'elles sont là, comment on fait pour que? Donc, en fait, des gens comme moi, mon rôle, c'est de regarder bien ce qu'ils font et de se dire.
En fait, est-ce que là, elle n'est pas en train de se censurer, en fait, de s'empêcher, en fait. Le phénomène de l'empêchement, c'est un phénomène, c'est compliqué. Ça demande, en tout cas, de la réflexion et de l'accompagnement, en fait.
Oui, voilà. C'est vous
comment
disiez...
on suscite des vocations, comment on dit, mais tu peux. Comme on le dit à un enfant à un moment de sa vie, en fait, hein, aussi. Comment on donne
non, mais c'est très important ce que vous avez dit. Vous avez témoigné en disant je voyais pas comment faire 50-50, 50% hommes, 50% de femmes. Et voilà, c'est toute l'éducation depuis des siècles qui ont fait qu'on arrive.
Maintenant, on n'arrive pas à penser. Dire, mais oui, je le dis pour désinhiber les femmes et les hommes, parce que moi, j'ai des collègues hommes j'ai plein de collègues hommes qui font tout à fait attention à la situation des femmes. Et donc, du coup, ce n'est pas qu'une question de femmes. Ce n'est pas que les directrices femmes qui programment. Thiago Rodriguez, c'est un homme. Enfin, je veux dire, il a fait une programmation à Avignon, 55 ans. Donc, c'est possible. Donc, il n'y a pas de problème de talent, en fait. On n'est pas moins doués.
Émilie Chandler, vous vouliez ajouter quelque chose.
Je voudrais rebondir là-dessus parce que je pense qu'on avance en matière d'égalité étape par étape. On a eu cette première étape ces dernières années de parler d'égalité, imposer des quotas, poser des règles. Mais là où je partage totalement ce que tu viens de dire, c'est qu'on est dans cette deuxième étape où maintenant il faut que les femmes s'autorisent elles-mêmes. Et ça, c'est pas facile parce qu'alors, je peux vous dire qu'en politique, c'est quelque chose. Hein. C'est moi, par exemple, pour intégrer la délégation aux droits des femmes, je n'osais pas candidater en me disant que toutes les autres avaient des meilleurs CV que le mien. Et c'est un homme, Guillaume Gouffier-Valente, qui m'a dit « Mais pourquoi tu candidates pas ? T'as rien à perdre et t'as le bon profil, donc candidate, au pire t'es pas retenue. » Mais ça, c'est à nous qui avons la parole dans les médias, de le dire aux femmes, de le dire aux filles, aux petites filles, il faut se dire qu'on ne vaut pas moins. Mais ça, ça va être encore un petit peu long, je crois. Et en politique, effectivement,
clair.
C'est clairement ça. Regardez, tous les grands ministères, on les donne aux hommes. On peut dire ce qu'on veut. Je le dis moi. Ça m'embête un peu, voilà. Et quand on regarde les réseaux sociaux, moi, ça me fait marrer de voir les critiques qu'on se prend quand on est une femme ou quand on est un homme. Quand on est un homme, c'est des histoires de gros bras. Quand on est une femme, mais c'est hyper méprisant. C'est sur le physique, c'est sur la voix, c'est carrément sur le niveau de réflexion. Enfin, à un moment, on a envie de dire déjà, oubliez l'anonymat et on en discute. Mais ce sexisme-là,
il existe.
Est extérieur et c'est aussi parce que on n'a pas osé se défendre pendant des années. On a accepté, mais c'est terminé. Il faut le dire. Maintenant, c'est terminé.
Oui. Il y a une citation, moi, que j'adore. Alors, j'ai oublié son auteur. C'est une suffragette anglaise. Elle dit « Quoi qu'elle fasse, la femme doit le faire deux fois mieux que l'homme pour qu'on en pense autant de bien. Heureusement, ce n'est pas difficile. » Voilà. Donc, ce petit clin d'œil.
C'est drôle.
Feriel Bakoury... Une de vos missions aussi, c'est de faire rayonner ce théâtre de point commun, qui est une scène nationale, au niveau national ou même international. Alors, comment vous y prenez-vous ?
Alors, en effet, c'est un label, scène nationale, hein, qui existe depuis fort longtemps. Et donc, du coup, j'espère qu'on va revenir sur l'ancrage local auquel je tiens. Mais il ne s'oppose pas, en fait, à la question du rayonnement, auquel, d'ailleurs, les collectivités locales sont très attachées. L'État, ça va de soi, c'est eux qui nous le demandent. C'est la différence avec un théâtre municipal. C'est-à-dire que ce rayonnement, il se fait par la programmation, en fait. Bon, un label, c'est un gage de qualité, en fait. C'est-à-dire que, à la scène nationale, je programme des artistes qui tournent partout dans le monde, mais qui vont aussi au Festival d'Avignon, au Théâtre de l'Odéon. Bah, là, par exemple, récemment, le Festival d'Avignon m'a dit, on veut faire des avant-premières Festival d'Avignon dans les scènes nationales. Évidemment, on va en discuter. Bon, on me demande parce que, on peut partager des artistes en commun, vous voyez ce que je veux dire. Donc le Festival d'Avignon en France, c'est ce qui est le plus connu.
Oui, c'est très
connu. Je travaille avec le Festival d'automne à Paris. On fait des premières du Festival d'automne à Paris en seconde couronne. Je me bats beaucoup sur le terrain de la seconde couronne. Hein. Je pense qu'Émilie comprend très bien ce que je veux dire. On est en Île-de-France, donc Île-de-France est attractive. On sait aussi que... Il y a un vrai débat sur les moyens au centre de Paris, les moyens en seconde couronne. Donc moi, mon boulot, c'est aussi de me bagarrer avec les grands établissements. Enfin, c'est pas forcément d'ailleurs une bagarre, mais c'est quand même de dire...
Oui. Vous êtes opiniâtre.
En fait, quand je travaille avec le Festival d'automne à Paris, on discute et on est vraiment sur une bonne voie. C'est pas simplement que je suis opiniâtre, je leur dis vous êtes festival d'automne à Paris, pourquoi finalement ferait-on pas Grand Paris et une première en fait à Cergy? Et on le fait, et c'est ça que j'aime bien. Donc la première de Joël Pommerat, qui est l'un des plus grands artistes français en Ile-de-France, eh ben, sera à Cergy-Pontoise la saison prochaine. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça, il y a la programmation. Et il y a en plus que moi je suis très internationale, 30% de la programmation est internationale, avec des grands artistes qui sont connus partout dans le monde, mais que j'ai créé un festival qui va juste commencer dans quelques jours, qui s'appelle Art et Humanité, avec l'école d'art de Cergy-Pontoise, qui est les Beaux-Arts, qui sont ultra importants, c'est une école nationale. Et que j'ai créé ce champ de la performance, en fait, la performance est de la danse contemporaine, et que j'ai développé un champ esthétique particulier qui ne se fait pas forcément en scène nationale, et qu'à ce titre, le ministère de la Culture, depuis un an, m'a demandé faire de la scène nationale, alors ouais, je pense qu'Émilie ne le sait pas encore, un pôle européen de production, en fait. Donc du coup, les élus sont très contents, et on est en discussion avec l'État et les collectivités locales pour faire un pôle européen de production. Donc il y a 11 pôles européens de production en France. On passerait à 15 et nous serions dedans, vous voyez. Donc du coup, ça génère beaucoup de fierté.
Une belle victoire.
Alors, d'où ça vient? Alors ça, pour le coup, ça vient du fait que moi, j'ai postulé à Cergy-Pontoise parce que l'idée des 142 nationalités d'agglomération en face du Vexin et d'autres choses, ça m'amusait beaucoup. Hein, on ne se rend pas compte, 142 nationalités, c'est beaucoup. L'Agora des Vouées, c'est 70. Et pourtant, voilà. Que moi, en fait, la richesse des communautés, c'est une richesse. Je pense qu'on a le même point de vue avec Émilie. Et qu'en face, je me suis dit, bah, c'est aussi important d'avoir une programmation internationale. Alors, moi, je ne fais pas du communautarisme. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a des Maliens que je
Oui, on a bien compris, oui.
Mais c'est de montrer une programmation qui est homme-femme, mais aussi très diverse. Mmh. Il se trouve que ça marche très bien. Et que donc, du coup, l'État nous dit, bon, bah, très bien, il y a une seule scène nationale dans le Val d'Oise. Avec ton appétence internationale, voilà, est-ce que tu ne nous fabriquerais pas, du coup, un pôle européen qui serait... En fait, l'idée que la scène nationale donc continue à accueillir des artistes, mais qui sont pour le coup cela le contraire des autres, peu programmés et peu visibles en France. Alors cela, on les fait vraiment. Alors pour le coup, on a créé un groupe de 8 partenaires qui sont à Lisbonne, en Suisse et en France avec la Villette, où on fait circuler des artistes qui viennent d'ailleurs. Bon, et notre rôle sera aussi d'accompagner des artistes d'ici vers l'ailleurs. Voilà, donc, c'est ça qui se dessine. Donc voilà l'exemple que je peux vous donner qui est en cours de pourquoi la scène nationale alors doit rayonner. Et ça, on me le demande et c'est ma mission, puisque je suis presque une des seules, avec Royaumont, avec le CNAREP, à pouvoir avoir cette dimension. Et parce qu'on est configuré pour ça, en accueillant des artistes très connus, mais aussi en faisant découvrir des artistes peu connus, qui viennent d'ailleurs.
On comprend mieux hein, ce que vous nous avez expliqué en début d'émission sur toutes les facettes de votre fonction de directrice. Hein. Ça semble, c'est certainement passionnant, mais ça doit être assez chronophage, hein, j'ai l'impression.
Je m'ennuie pas.
C'est clair.
mais pour l'instant, ça me va comme ça.
Ça vous va. Alors, peut-être revenir sur ce... Enfin, vous nous en avez déjà dit pas mal, mais sur cet axe art et humanité qui existe aussi parce que dans le Val-d'Oise, on a la chance d'avoir une université, de grandes écoles. Et c'est important, cet apport de...
Oui. Ça fait
de ce côté académique, oui. Voilà.
Alors, mais j'ai surtout envie de parler de notre territoire. Je dis notre territoire parce qu'il m'a fallu du temps pour y atterrir, parce que je connaissais peu le territoire et que je l'ai connu en enquêtant pour postuler pour cette scène nationale, et que il est mieux que ce que j'avais rêvé. C'est-à-dire qu'il y a ces 142 nationalités, il y a beaucoup d'entreprises, des entreprises qui sont formidables, qui apportent beaucoup au territoire, que je rencontre par le club de mécénat, mais avec qui je partage énormément de valeurs. Et il y a en effet les pôles sup. Donc, il y a l'école d'art, je viens d'en parler, il y a l'université. Donc ce qui se passe pour Art et Humanité, c'est qu'en effet, il y a cette programmation internationale inédite, mais qu'en fait, l'université, le master culturel dirigé par Anne Herzog, qui est une sociologue absolument formidable, crée en fait des duos rencontres artistes-chercheurs autour de sujets qui touchent les spectacles, qui sont beaucoup, on va se le dire, les questions que soulèvent les artistes qui viennent d'ailleurs. Ils parlent des questions de la place de la femme, mais parfois en Inde et aux Philippines, d'accord ?
C'est pareil et pas pareil, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, on voit que c'est une question universelle. Mais on va aussi beaucoup y parler des questions de dérèglement climatique, en fait, de façon très forte.
Oui, de tous les enjeux sociétaux.
Des questions d'identité culturelle, d'identité sexuelle, de tout ce qui remue le monde et qui nous divise. Et qui fait la différence entre... les gens qui ont une voix démocratique et tolérante et ceux qui sont dans des partis pris d'exclusion. Je le dis comme ça, je ne suis pas une femme politique et je ne compte pas le devenir, je laisse à Émilie la place tranquillement. Mais l'art autrement, en fait, soulève en fait, les enjeux qui sont portés par la politique, mais par des voix artistiques, poétiques. Dernièrement, j'ai découvert une phrase de Pablo Picasso, il dit l'art sert à lutter contre la poussière qui se dépose quotidiennement sur nos vies.
Oui.
Vous voyez, je trouve ça très beau.
Oui, c'est beau.
Ce que ça veut dire cette poussière tous les jours, on entend des mauvaises
qui s'accumule
nouvelles.
Petit à petit.
À lutter contre. Voilà. Donc en fait, l'art, ça permet la mise en recul d'enjeux. Je dis pas aux artistes parlent de ça. Ils parlent des sujets qui nous remuent. Une partie de ce qu'a raconté. Émilie, la dernière, le plus beau spectacle que j'ai fait, c'était sur les féminicides. C'était une Espagnole qui s'appelle Agnès Mateus, qui est artiste associée à la Bastille, à Théâtre de la Bastille, avec qui je travaille beaucoup. C'est le plus beau spectacle, et j'aurais dû inviter Émilie, que j'ai vu. Donc en fait, voilà, sauf que ce n'est pas un angle de parti politique, c'est un angle qui pour le coup part de voix multiples. Quand vous travaillez à l'échelle internationale, vous vous rendez compte que les grands sujets d'aujourd'hui, hein, l'homophobie, la violence faite aux femmes, les riens,
se rejoignent.
Alors chacun, j'ai envie de dire, avec des moyens financiers différents, avec des enjeux différents. Et ça se fait du coup vraiment l'école d'art est partie prenante, parce que je voudrais dire que là, dans quelques jours, les étudiants de l'école d'art vont créer des œuvres autour de cette programmation inédite. C'est des étudiants qui créent. Donc là aussi, c'est l'accompagnement de la scène nationale, puisque ces petits bouts de chou, futurs artistes, c'est là, les artistes en résidence, Volmir Cordero, qui les accompagnent. Et de l'autre côté, en effet, l'université crée des débats et des conversations. Dernière versus d'art et humanité, avec l'agglomération de Cergy-Pontoise et bientôt avec le département, on travaille aussi avec les coopérations. Enfin, moi, j'adore les coopérations parce que j'ai découvert ça il y a 2 ans. Il y a longtemps, des hommes politiques ont décidé, qu'ils soient de droite ou de gauche, de travailler en coopération avec des pays. Et ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc, la coopération, c'est le contraire de la colonisation, en fait, pour moi. C'est-à-dire pas du tout dans une vision ascendante sur les cultures, mais comment on coopère. En l'occurrence, on va accueillir en fait, une conférence sur le vodoun au milieu de tous ces spectacles. Vodoun, c'est une culture que je vivais, moi, comme un peu stigmatisée. Je sais pas, on voit les petites poupées, vous voyez, avec les pics. On a tous des clichés comme ça. Moi, j'étais comme ça. Je suis partie au Bénin la dernière, j'avais les mêmes idées. Et donc là, on fait une grande conférence autour d'un spectacle, justement, sur la réhabilitation de la culture vodoun, qui est une vraie culture vodoun. Je veux dire quand même une chose importante. Au Bénin, on observe, par exemple, que s'il n'y a pas de conflit politique grave, c'est parce que le vodoun relie, en fait, des gens qui ont des religions différentes. C'est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a le combat homme-femme, il y a les combats de communauté. Excusez-moi, l'activité internationale est quand même terrible cette année. Donc, du coup, c'est intéressant ce vodou, qu'on imagine comme un truc un peu cliché, mais qui, en fait, est une pratique, une religion qui relie des gens, en fait, qui ont des pratiques différentes. Vous voyez ? Et ben moi, ça, symboliquement, c'est au cœur d'art et humanité. Parce que ce que je voudrais, vous voyez, mon théâtre, je l'ai appelé Point commun. C'est pas un hasard, je suis contente de l'avoir pour commun parce que je n'aime pas la division et je veux que le mot rassemblement soit un mot, bien utilisé.
On est bien d'accord. Je voudrais que vous nous disiez juste un mot, puis on fera une nouvelle pause, mais je voudrais que vous nous parliez des 2 autres actualités que vous vouliez annoncer, c'est-à-dire il y a Festival Art. C'est Art et Humanité, pardon. Mais Génération en avril. Allez-y.
Alors, Génération en avril, il y aura toujours une programmation. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est géniale, c'est moi qui l'ai fait, c'est presque gênant. En tout cas, elle est pleine et elle plaît au public. Que le festival Génération était d'abord dédié aux jeunes adultes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Émilie, d'ailleurs. Parce que je me souviens qu'Émilie était avocate de la partie civile au Bataclan. Et qu'on a parlé, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et que du coup, à ce moment-là, moi aussi, j'étais marquée comme tout le monde par ces terribles attentats du Bataclan, là. Et c'était pas très loin du moment où j'ai postulé à Cergy-Pontoise. Et à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, en fait, il faut que les jeunes rentrent dans ces lieux de culture autrement qu'avec les enseignants que j'aime beaucoup, que ce ne soit pas rattaché
qu'à l'école, que ce soit rattaché aux divertissements et à leurs préoccupations, ce qui n'est pas facile, parce que moi, j'ai des jeunes, vous élevez des jeunes, fils d'Emilie est petit, mais quand ils grandissent, au bout d'un moment, ils décrochent. On se bagarre, vous voyez,
c'est ça. Faut être vigilante.
Et donc, du coup, comment on fait, excusez-moi, pour que ces lieux de culture soient un petit peu plus attractifs? En France, j'ai dit tout ce que je pensais de positif dans notre politique culturelle. Peut-être qu'on est un peu trop sacralisé. Mmh. Vous voyez, ça fait peur, ces lieux culturels. Et donc, ça fait peur à des gens qui n'ont pas l'accès. Ça emmerde des gens qui se disent « Oh, encore un truc de l'école avec les profs, etc. » Bon, voilà. J'adore les profs. Hein. Voilà, mais ça ramène à l'école, Molière. Mmh. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai fait cette programmation génération. Donc, il y aura Médicaire Couche dedans, par exemple, qui est un super chorégraphe. Il y aura deux autres spectacles qui sont vraiment partis, j'ai envie de dire, des goûts des jeunes. Mais il y a aussi des spectacles que je leur ai proposés qui ne seraient pas allés voir. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il y aura la présentation, en fait, d'une première étape de Nous sommes vous. Alors ça, Émilie, elle est au courant. Donc, une programmation qui est faite pour les jeunes, et je voudrais dire, hein, qui attire bien plus que des jeunes, ce qui fait que génération, c'est génération avec un S.
Oui, oui.
Que moi, je croise beaucoup de personnes âgées à la scène nationale, ou des seniors, ou des gens qui sont... Alors, je ne sais pas ce que c'est que d'être jeune, et je ne vais pas situer l'âge, parce que je pense que jeune, c'est dans sa tête.
Oui, vous avez
et qui me disent, merci de ne pas nous enfermer dans des trucs de vieux, madame la directrice. Que quand j'ouvre ma saison, en fait, ils sont là, ils dansent comme des fous, et aussi sur la musique électro. Donc, je voudrais aussi que les clichés... Alors, il y a des clichés sur les jeunes, hein, on les a un peu vécu, mais il y a des clichés sur les vieux. Donc, ces générations faites pour les jeunes... englobe toutes les générations, et ça danse dans la salle, je peux vous le dire, et ça fait du bien. Ça a été très, très manifeste au moment de la sortie du Covid. Et là, il y a aussi des choses compliquées qu'on traite. Et là, je vais quand même rendre hommage à la préfecture, qui m'a fait une proposition il y a quelques années, qui était de dire qu'ils étaient inquiets, parce qu'en fait, il y avait des jeunes, de plus en plus jeunes, qui participaient à des RICS. Bon, à partir de ce moment-là, et ça, j'ai aimé ça, l'ancien préfet Égalité des Chances, Xavier Delarue, m'a dit « Il paraît que vous n'êtes pas une directrice de scène nationale hors sol. » Moi, j'adore qu'on me dise ça. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on peut travailler sur ce sujet ? Donc, j'ai dit « Pourquoi pas ?» Donc, j'ai sollicité à la fois des artistes et des maisons de quartier. On a écrit vite fait une lettre préfecture scène nationale et je me suis dit « Oh là là, cette lettre formelle, ça va attirer personne. » Les maisons de quartier sont arrivées en disant « Les jeunes qui travaillent avec qui sont dans les RICS, malheureusement, on ne les côtoie pas. » Par contre, les jeunes sont hyper volontaires dans les quartiers pour faire un projet avec les scènes nationales. La préfecture nous a accompagnés et ce sujet quand même de la violence, en fait, est resté. Il se trouve que malheureusement... cet été, oui. Voilà, il y a eu des émeutes, oui, qui nous ont quand même tous beaucoup attristés, oui. Voilà, et qu'on a décidé avec le metteur en scène qui s'appelle Ahmed Madani de travailler plutôt sur comment les jeunes rencontrent la violence dans leur quotidien. C'est-à-dire de ne pas imaginer que eux sont à la source systématique de la violence, mais que eux rencontrent la violence dans leur quotidien. Donc ils ont été interrogés sur c'est quoi leur vie quotidienne, mais aussi quelles humiliations ils subissaient dans leur vie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se raconte, en fait, dans ce projet, qui va devenir une vraie pièce de théâtre qui est en répétition, le phénomène du harcèlement scolaire se révèle, en fait. Ils racontent des choses pas très joyeuses qui se passent dans leur quartier et on leur demande d'en parler. Ils racontent aussi parfois combien ils se sentent enfermés par le regard d'enseignants qui sont peut-être exaspérés. Et qu'ils se sentent enfermés dans un mot qui va être bon à rien. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que moi, si vous voulez, je suis pas un acteur du champ social, même si j'aurais une appétence très forte. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vont le faire avec les mots du théâtre, avec la poésie du théâtre, que quand je me déplace pour les voir en répétition, ils attendent le metteur en scène, ils attendent leur texte, vous voyez. Et donc, ils apprennent leur texte. C'est que le dernier sujet, et que moi, je leur ai fait visiter le théâtre, ils m'ont pas cru quand je leur ai dit que c'était moi la directrice. Bon, je sais pas, ils avaient une image de la directrice, à mon avis, je sais pas, avec une perruque, je sais pas. Bon, bref, ils m'ont vraiment pas cru. Je disais, c'est vraiment moi. Et j'ai dit, moi, je vous donne un moment de représentation. J'attends que vous soyez au top. Et ben là, avec la maison de quartier, c'est la maison de quartier d'Erani, hein, je vais rendre hommage à cette maison de quartier, ben, les animateurs, ils aident les enfants à répéter. Et vous voyez, c'est ça mon boulot.
C'est ça.
Voilà. Là, et ça, c'est vous avez pas du tout une chose qui est banale.
En fait, ça, vous avez le sentiment là d'avoir vraiment réussi votre job.
Bon, pas encore réussi, mais de trouver du sens. Et il se trouve quand même que de ces gamins qui sont plutôt de milieux sociaux, on va dire pas favorisés, ils ont tous fait du théâtre au collège et qu'ils avaient envie d'en refaire. Et ça, je trouve ça aussi assez joli de le dire. Voilà.
Vous nous donnerez les dates hein, de ces spectacles pour qu'on puisse en faire la promotion chez IDFM Radio, mais aussi peut-être venir les voir.
Oui, tout à fait. Je vais vous le retrouver là. En gros, pour ne pas me tromper, il faut que je vous le dise vite, c'est du 24 au 26 avril. Et donc, le spectacle, justement, la création participative, c'est le 26 avril.
Très bien.
Voilà.
On va le noter. Merci Feriel Bakouri. On marque une dernière pause avant la dernière ligne droite de cette émission et on finit sur cette journée internationale des droits des femmes. À tout de suite. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love. Feel the love. C'est l'économie en direct et ce matin, 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes avec au micro Émilie Chandler, députée de la première circonscription du Val-d'Oise et Feriel Bakouri, directrice de Point Commun, la scène nationale de Cergy-Pontoise. Feriel, alors juste très vite, c'est aussi, j'en ai moins parlé parce que la journée internationale des droits des femmes, c'était important, mais vous allez participer au salon Effervescence.
Oui, bien sûr.
C'est dans le cadre de votre mécénat. Expliquez-nous rapidement.
Alors, en effet, pour les questions financières que j'ai évoquées, la scène nationale est amenée à chercher d'autres recettes. Donc, on développe un club de mécénat. Et donc, du coup, on cherche à installer des relations avec des entreprises. D'ailleurs, je fais un appel très fort aux entreprises à partir, en fait, du partage de valeurs qu'on aurait. Vous voyez, on a beaucoup parlé de valeurs, finalement, hein,
oui.
Des valeurs qu'on partage avec Émilie, il semblerait, quand même. Et donc, du coup, on a monté un club de mécénat qui est fondé sur les valeurs qu'on partage. Beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, partagent le souhait d'aider les jeunes du département, en fait. Mais ils partagent également, c'est les trois axes de notre club de mécénat, l'idée que la culture doit aller aussi dans le milieu rural et dans le Vexin, notamment ce qu'on fait avec le pivot, le pôle itinérant du Val-d'Oise. Et ils partagent, pour le coup, l'idée qu'elle doit atteindre les quartiers. Mmh, et c'est ce que je viens de raconter, en fait, avec les projets d'Anne. C'est ça, les trois axes du mécénat de la scène nationale. Et on se rejoint sur des questions de valeur. Et je peux vous dire qu'on est vraiment au taquet. Et surtout, on est tous un peu amoureux de notre territoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une occasion de la mise en valeur
de nos quartiers, du milieu rural, de nos jeunes, en fait. Ils sont très nombreux. Rappelons-nous quand même qu'on est le département
le plus jeune de France.
C'est quand même important de le dire. C'est pour ça que j'ai créé cet axe. Et donc, Effervescence, c'est un moment incontournable de la vie des entreprises. Et donc, la Seine nationale, elle participe en tant qu'entreprise de service public, mais aussi en tant que qu'elle recherche encore d'autres mécènes.
Complètement. Voilà. Très bien. Mais nous nous y retrouverons puisque IDFM Radio est présent également, sera présente au Salon Effervescence. Alors, dans quelques minutes, on va se quitter. Juste peut-être faire un petit récapitulatif de cette Journée internationale des droits des femmes. Je m'adresse donc à vous deux, Émilie Chandler et Feriel Bakoury. Diriez-vous que cette journée permet de fêter les victoires et les acquis, de faire entendre nos revendications, d'améliorer la situation des femmes, Émilie?
Un petit peu tout ça à la fois. Je pense qu'il faut toujours retenir que quand on aborde le sujet du droit des femmes, on entend beaucoup le champ lexical de la guerre. C'est quand même tout le temps ce qui veut dire qu'on est des combattantes et qu'on va devoir continuer à mener les combats avec les hommes. Une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais passer un petit message de se dire quand on veut défendre les droits des femmes ou parler d'égalité, il y a toujours quelque chose qui revient, c'est de se dire on peut y arriver ensemble parce que tout seul, personne ne peut porter ces sujets-là. Et le ensemble, il part toujours du constat de se dire à deux personnes, d'identifier une troisième personne puis une quatrième personne et on se dit elle est comme nous ou il est comme nous. Et je trouve que quand on a déjà créé ce lien d'identité entre les gens ou de partage de valeurs communes, c'est déjà un grand pas pour mener des combats ensemble, que ce soit sur l'égalité ou sur l'accès à la culture ou sur plein d'autres combats. Et c'est vrai qu'avec Feriel, on est dans des milieux qui sont pas forcément faits pour se parler très souvent. Et en fait, on se parle souvent. Ouais. Et on porte des combats communs parce qu'un jour, je me suis dit, elle est comme moi. Voilà, on a des valeurs communes et c'est comme ça qu'on avance. Donc, journée du droit des femmes, oui, le combat continue encore et toujours, mais surtout ensemble.
Et certainement aussi que, voilà, on parlait de génération, mais votre génération porte le flambeau et on espère qu'il sera suivi par nos filles et nos petites filles. Encore un petit mot, Émilie, tout à l'heure vous parliez des grands ministères. Le ministère de la Culture a quand même été et revient à Rachida Dati. Donc, alors le ministère de la Culture a déjà souvent été dirigé par des femmes.
Alors, oui, enfin, je parlais des grands ministères. Oui. Je parlais du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, l'économie. Après, il n'y a pas de petits ministères. En tout cas, les régaliens sont ceux-là. Alors, la culture avec Rachida Dati à sa tête, c'était très décrié. Moi, je n'ai pas décrié parce que je trouve que c'est une politique qui a beaucoup d'énergie et qui est quand même connue pour ne pas lâcher l'affaire, comme diraient les jeunes.
Pas lâcher le morceau.
Je pense qu'à un moment, il faut aussi lui faire confiance, elle va se battre pour la mission qui lui a été confiée et j'attends de voir les résultats, mais je suis assez confiante parce que quand j'entends déjà ce qui se met en place, ça me plaît et elle parle beaucoup de culture en ruralité, elle parle beaucoup d'égalité aussi, donc moi je trouve ça bien,
dans votre sens.
Femme au ministère de la Culture et tant mieux.
Tant mieux, merci. Feriel Bakoury, un mot sur cette nomination de Rachida Dati à la Culture?
Nous, les acteurs culturels, moi, je pense avoir aucun préjugé. On attend de voir. Vous voyez ce que je veux dire? On avait des sujets avec la précédente ministre à laquelle on était très attachés parce qu'on la connaissait. Emmanuel Macron a décidé de changer la distribution, ce qui, nous pose un problème parce qu'il y a vraiment quand même le ministère de la Culture, ça change souvent. Et donc, ça pose vraiment, en fait, une question de on travaille des sujets avec un ministre, puis il faut repartir à zéro. Je pense que cette ministre, elle est attendue sur la question du budget. Elle le sait.
Forcément.
Malheureusement, elle n'a pas eu de chance puisqu'il y a eu des coupures au moment où elle arrivait. Donc c'est vrai que ce sujet sera central, comme celui qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs, de la question de la liberté de programmation des institutions et de création des artistes, puisqu'il y a des endroits en France, pas du tout dans le Val d'Oise, je le dis pour être bien clair, où parfois, des élus interviennent dans des programmations où le directeur a une autonomie, où il y a certains sujets dont on ne peut pas parler. Donc c'est vrai que c'est les deux sujets, c'est en fait comment faire pour que ce service public en reste un et que le service public en reste un. Alors j'ai parlé des artistes, mais il y a une chose que je n'ai pas dite qui est fondamentale, c'est la politique tarifaire. C'est comment on fait pour que des tarifs soient accessibles. Une fois que vous avez convaincu les gens de venir, Donc c'est, je l'ai mis du côté des artistes. C'est la politique tarifaire. En fait. Dans une scène nationale, les élèves, pour venir,
ça peut être
ils
un
payent
frein.
6 euros leur place. Ouais. Hein. Ça, on le fait grâce au soutien de l'État et des collectivités locales. Donc elle a un gros enjeu sur le budget, mais elle le sait. Et elle compte se battre, dans ce que j'ai entendu d'Emilie ce matin, et je m'en réjouis. Et puis, il y a un enjeu de liberté de création et de programmation. Et ça, je pense qu'on aura envie aussi d'en discuter avec elle. Voilà.
Merci Feriel Bakouri, je suis très impressionnée par la mise en place de tous vos projets participatifs hein, qui demandent aussi beaucoup de travail et puis d'exigence. Encore un mot.
Ouais, sur la journée des 8 mars, je voulais dire quelque chose.
Allez-y,
je ne suis pas exprimée. Je
vous
pense
en prie.
Qu'il y a une chose qui est importante de dire et qui passe pour acquis, c'est que rien n'est acquis en
c'est
matière.
Vrai.
En fait... d'acquis des femmes, mais ça pourrait être aussi dans d'autres secteurs. Et donc, pour moi, le 8 mars, c'est de se dire, on peut pas dire, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et on sait très bien, puisque quand même, le populisme est très proche de tous nos pays, que tout peut repartir en arrière, en fait, à n'importe quel moment. D'accord ? Et que donc, du coup, rien n'est acquis, c'est ça que j'ai envie de dire. Et comme Émilie, et je le dis parce qu'il y a des mouvements féministes qui sont très puissants, en fait, qui agissent aujourd'hui, le mouvement MeToo, on n'a pas parlé. Je pense que moi, ce qui est important, c'est qu'on avance et qu'on déconstruise, en fait, cette violence systémique et qu'on analyse l'éducation qu'on a, hommes et femmes, mais qu'on le fasse avec les hommes. Et c'est ça que j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le danger, moi, je le vois bien... C'est la séparation. Moi, je veux travailler avec les hommes. Je vous livre pour finir un truc un peu personnel. Moi, je suis mariée avec un Italien depuis longtemps qui m'a beaucoup aidée, en fait, quand vous me demandez, on revient à devenir directrice de scène nationale, dans le sens où lui aussi faisait une carrière d'universitaire, directeur de laboratoire, et que c'est parce que, en fait, on a partagé des tâches ménagères, qu'on a fait des choses ensemble, que, en fait, j'ai réussi à faire mon parcours. C'est ça que j'ai envie de vous dire sur la question 1. Et aujourd'hui, il me dit, je me rends compte finalement que dans l'éducation qu'on a les hommes, en fait, il y a quelque chose qui peut porter à cette violence. Vous voyez, c'est le ajouter. Et donc, c'est important d'identifier. Parce qu'en fait, quand vous faites des formations, justement, sur les VHSS, violences faites aux femmes, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas... L'homme violent dans son coin, ça surgit pas, en fait. C'est tout un tas de choses dans le quotidien, de ce qu'on dit, sur lequel il faut travailler. Moi, en tant qu'employeur, j'y travaille tout le temps. Ça fait deux formations qu'on fait, dans lesquelles certains hommes m'ont révélé qu'ils pensaient pas que faire des blagues sexistes de ce type-là, c'était problématique. Voilà. Donc, alors, moi, du coup, hommes et femmes, je veux qu'on combatte pour ça. Et en même temps, je pense que si le mouvement MeToo révèle des systèmes et des choses qui sont terribles, en même temps, je n'aime pas le lynchage. Voilà. Et donc, du coup,
d'accord.
Mais du coup, moi, je trouve que dans ma génération,
ça fait pas avancer
les
choses.
Oui, mais par contre, je pense que Judith Godrèche ne serait pas sortie s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, s'il n'avait pas été. Vous voyez, donc c'est compliqué.
C'est compliqué.
Moi, je pense que c'est fondamental dans notre histoire. Je pourrais pas être dedans. Je suis pas de cette génération-là. Moi, vous voyez, je suis plutôt Simone Veil, Simone de Beauvoir, etc. Mais je les admire en me disant qu'elles sont utiles. Mais que moi, je veux continuer le dialogue avec les hommes j'aime pas le lynchage.
Ouais.
Je sais pas comment vous dire, c'est un truc que j'arriverai pas à m'y faire. Voilà.
Non, mais vous avez raison de. Voilà, je trouve que vous avez raison de souligner l'importance des hommes dans ce mouvement des femmes, parce que sans eux, tous les hommes ne sont pas. Il y a beaucoup d'hommes
qui
soutiennent les femmes,
change,
absolument.
Voilà,
ouais, on est d'accord. Et
on
c'est important. C'est important de le dire.
C'est quand même la moitié de la population, donc on va pas pouvoir faire sans eux.
Complètement. On a besoin d'eux, pas parce qu'on n'est pas assez forte, mais parce qu'il faut le faire ensemble, et qu'on peut pas vouloir réunir, et voilà. D'accord.
On pose la question à Christophe. Merci. Alors voilà, c'est la fin de l'émission. Peut-être juste un mot avant de nous quitter, Émilie Chandler.
Alors, je reviens sur la constitutionnalisation de l'IVG parce que c'est vraiment l'actualité 2024. Je pense qu'on aura gagné le combat quand tous les pays auront constitutionnalisé ce droit sur le modèle de la France.
Très bien, merci à vous. Feriel Bakouri, un mot de conclusion.
Réinvitez-nous dans un an pour continuer à parler.
Ah, très volontiers, très volontiers.
Mais... parce que le sujet est brûlant.
Même avant un an, hein,
voilà.
Je peux vous
en
inviter.
En tout cas, à suivre.
Avec grand plaisir. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir passé ces 90 minutes en notre compagnie, chacune dans votre domaine. Je disais au début de l'émission que vous êtes des femmes engagées. Je pense qu'à présent, on ne peut plus en douter. On va toutes se dépêcher pour se voir les événements qui vont avoir lieu aujourd'hui. L'économie en direct est terminée. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouver son podcast sur le portail de la radio. Merci Christophe pour la technique. Merci à vous tous pour votre fidélité. Et moi, je vous donne rendez-vous à mardi pour une nouvelle émission. D'ici là, belle journée et bon week-end.